Dieu est à l'œuvre. Amen. Nous sommes à la sixième étape. Dieu a commencé une œuvre en chacun d'entre nous. Le travail se fait. N'ayez crainte. On ne le voit peut-être pas, ce n'est pas toujours évident, mais le travail se fait. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Il a commencé, il va continuer le grand nettoyage intérieur de ta vie. L'enjeu de cette étape, est-ce que tu es prêt à lâcher prise, à laisser Dieu agir pleinement dans ta vie pour vivre la vraie vie à laquelle Dieu t'appelle? Es-tu prêt à remettre en cause tes habitudes, à remettre en cause ton confort désespérant, à devenir réellement cette nouvelle créature? Dieu va intervenir dans ta vie. Il a besoin que tu lui donnes le feu vert. Il a besoin que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Il a besoin que tu lâches des choses. Et mon juste vivra par la foi. Ce soir, c'est encore un acte de foi où nous ne savons pas ce qu'il y a derrière, nous ne savons pas ce qui va encore se passer, mais par la foi, nous croyons que Dieu est à l'œuvre et que Dieu va intervenir dans nos vies. Et la foi mène à l'obéissance. On va voir ce soir que maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Maintenant qu'on a mis tout à jour, on va demander à Dieu de nous délivrer des choses qui nous ont empoisonné la vie, des choses qui ont toujours été au fond de nous et qu'on n'a jamais réussi à se débarrasser. Et ce soir, attends-toi au miracle. Ça commence ce soir. Et ce soir, il va y avoir un besoin de foi et un besoin d'obéissance. Dans 1 Samuel 15, 22, il est écrit « L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. » Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce soir, ce que Dieu veut ce soir, c'est que tu lâches des choses de ton passé, des choses auxquelles tu t'es toujours accroché, des choses qui t'ont fait mal, des choses qui t'ont blessé, des choses qui t'ont amené à vivre dans une certaine honte. Et c'est pour ça qu'on a confessé. C'est pour ça qu'on a mis à jour tout ça. Parce qu'on ne veut plus que ces choses-là conduisent notre vie. On ne veut plus être victime de ces choses-là. Tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, on a vu la puissance du péché dans ta vie. Et la puissance de ce péché-là, ce qu'il a fait dans ta vie, soit à travers des êtres humains, à travers des proches, à travers ce que tu as subi. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu deviennes cette nouvelle créature à laquelle il t'appelle. C'est quoi le lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est un processus qui consiste à obéir afin de vivre une réelle transformation dans les différents domaines de ta vie. Lâcher-prise, dire « Seigneur, ok, par la foi, j'obéis. J'arrête de me poser 10 000 questions. J'arrête d'être prisonnier de ce passé et je décide d'obéir. » Et dans quel domaine on va le voir? Par exemple, des choses concrètes que l'on vit dans les relations les uns avec les autres. Vivre le pardon. On le verra dans les prochaines étapes, comment on peut véritablement vivre le pardon. Comment on peut refuser de participer à la critique, au jugement, à la médisance. C'est ça, être aussi cette nouvelle créature. Vouloir avoir raison à tout prix, là aussi, ça va changer. Ne plus vivre dans le stress, dans l'angoisse, versus la foi. Mon juste vivra par la foi. Vouloir faire sa propre justice. Là, en communion avec Dieu, j'apprends à gérer les émotions qui découlent de la colère, de la jalousie, de la convoitise, de l'adultère, de l'argent, toutes choses qui viennent pourrir notre vie dans nos relations et avec des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler parce qu'ils dominent notre vie. En communion avec Dieu, j'abandonne mes passions, j'abandonne mes addictions. J'accepte de remettre en question mes raisonnements de toujours, Je regarde à mes mauvaises habitudes et comportements qui nuisent à mes relations. Vous voyez, il y a toute une panoplie dans laquelle Dieu va intervenir pour qu'on soit transformé. Amen. Et on est transformé dans nos relations. Hein, si vous êtes là depuis le début, vous avez vu que pour être heureux sur cette terre, il y a une condition sine qua non. Il y a une condition qui est celle-ci. Je dois soigner mes relations. Je dois préserver mes relations. Et pour ça, c'est un travail nouveau, hein, où là, je fais attention de mon côté, pour ma part à moi, je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je fais. Je fais attention à mon comportement. On a besoin de comprendre que nos relations, c'est important. Nos relations, c'est fondamental. Nous sommes des êtres de relations. Sans les relations, nous ne sommes rien. Mais les relations, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre comment gérer nos relations. Avec cette volonté de soigner, de préserver nos relations. C'est une question d'obéissance par la foi et une question de persévérance. Je refuse, c'est une décision, je refuse de continuer à vivre ma vieille nature en décidant d'exercer l'autorité que me donne le Saint-Esprit. C'est l'autorité que Dieu t'a redonnée en devenant enfant de Dieu. Cette autorité que Dieu t'avait donnée à l'origine de la création. Avant le péché, tu avais cette relation avec le Seigneur. Et là, c'est une décision. C'est quelque chose qui t'appartient. Je refuse. Je refuse de continuer à vivre ma vieille nature en décidant d'exercer l'autorité que me donne le Saint-Esprit. C'est comme une reprise de pouvoir sur ta vie. Où c'est toi qui décides, et ce n'est pas les autres qui décident pour toi. Tu décides, tu fais ta part d'obéissance par la foi. Et vous allez voir qu'on a plus de pouvoir qu'on ne pense. On a plus d'autorité qu'on ne pense par le Saint-Esprit. On sort de ce contexte de victimisation pour reprendre le contrôle de notre vie avec le Seigneur. Et ça, c'est important pour soigner nos relations. Ta vieille nature, ton ancienne vie, dans tout ce qu'elle renferme comme puissance destructive, a été crucifiée à la croix. Christ, à la croix, il a tout payé pour toi. Il a tout accompli. Il a remporté la victoire pour toi. Christ a payé le prix de ta liberté. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit, sinon de Christ. Et ça, on n'en a pas conscience. Quelquefois, on le dit avec les mots, avec la bouche, on le dit, mais on ne le vit pas toujours. On a besoin d'en prendre conscience. Tu as été libéré de l'esclavage. Amen. Tu n'es plus esclave des êtres humains. Tu es esclave de Christ. Tu es esclave de son amour. Tu es esclave d'une relation intime avec lui. Mais tu n'es plus esclave de ton passé. Tu n'es plus esclave de cette puissance destructrice. Qui t'a fait tant de dégâts dans ta vie. Par la puissance de celui qui agit en toi, tu as plus de pouvoir que tu ne penses. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de servitude. Amen. On est libre. On est libre d'aimer. On est libre de pardonner. On n'est plus sous un joug d'un être humain. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Le but de cette étape, j'ai pleinement consenti. J'ai donné mon accord. J'ai dit oui Seigneur, je veux goûter à cette liberté. Oui Seigneur, je veux retrouver cette liberté. J'ai pleinement consenti à ce que Dieu nettoie tout mon être intérieur, en éliminant tous mes défauts et en me montrant ce qui doit être corrigé dans ma vie, réparer ce qu'il est possible de réparer. Et avec Dieu, tout est possible. Dans les étapes précédentes, nous avons pu identifier des mauvaises habitudes, des habitudes de comportement qui ont été blessantes pour nous, mais aussi on a blessé les autres. Ces mauvaises habitudes se sont développées et enracinées petit à petit dans nos vies. Nous fonctionnons d'une certaine manière depuis des années et des années. Mais quand nous venons à l'Évangile, il y a comme un switch qui doit s'opérer. Les choses anciennes sont en train de passer. Et toutes les choses sont en train de devenir nouvelles. Et ça, ça se voit. Ça se voit dans la vie de tous les jours, dans notre façon de parler, dans nos comportements, dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Il y a une réalité. Christ vit en nous. Amen. Exemple de mauvaises habitudes. Nous avons tous eu tendance à blâmer les autres. C'est la faute des autres. C'est rare que nous avons cette sagesse de regarder à nous-mêmes pour dire « qu'est-ce que je peux changer, moi ? Quelle est ma part dans tout ça ?» Vous vous rappelez qu'on a longtemps discuté qu'on ne peut pas changer les autres. Les autres sont comme ils sont, on n'a pas le pouvoir de les changer. Mais par contre, on a le pouvoir de travailler sur nous. Amen. Et au lieu de blâmer les autres ou contrôler les autres pour se protéger des réalités que nous ne voulons pas affronter, tendance à blâmer les autres. On a aussi tendance à nous renfermer, à prendre de la distance avec les personnes proches à chaque fois qu'il semblait y avoir un conflit. Toujours regarder à ce qui ne va pas chez les autres sans se remettre soi-même en question. Et donc reproduire sans cesse les mêmes comportements blessants. Laisser l'irritation prendre le dessus parce que l'autre n'est pas d'accord avec moi et qu'il pense qu'il agit différemment. Alors je suis irrité, ça m'énerve, il m'énerve. Ça aussi, on l'a vécu. Mais ça ne soigne pas les relations. Ça ne protège pas les relations. Donc c'est à nous de voir comment réagir par rapport à ça. Il ne changera pas. Sauf s'il est chrétien, qu'il est disciple comme vous ce soir et qu'il a envie de changer. Mais sinon, par nous-mêmes, c'est difficile pour un léopard de changer ses tâches. Laissez l'irritation prendre le dessus. Et celle-là, vous ne la connaissez pas, mais ça arrive. Il y a des gens qui veulent toujours avoir raison. Ne pas laisser l'amour triompher dans nos conversations avec les autres. C'est-à-dire de ne pas, on va le voir tout à l'heure avec Philippiens, mais c'est-à-dire que vous avez dans la vie des choses essentielles et vous avez des choses secondaires. Mais quelquefois, on ne fait plus la différence entre le secondaire et l'essentiel. L'essentiel, c'est de préserver la relation. L'essentiel, c'est de ne pas blesser l'autre. Et quelquefois, on s'accroche au secondaire pour des babioles, pour des bricoles. On s'irrite, on veut avoir raison et on crée une tension dans la conversation parce qu'on s'accroche à des détails, à des choses qui sont secondaires. Pourquoi s'accrocher à ça? Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de préserver. On n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je lâche prise. Je lâche. Mais quelquefois, on ne lâche pas et on s'accroche sur des détails. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi créer autant de tensions pour des détails comme ça? S'il y a des couples là, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Un climat, regardez, on ne laisse pas l'amour triompher dans notre conversation avec l'autre. Alors ce qui se passe, c'est qu'on crée, à notre insu, parce qu'on n'en a pas conscience, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe un climat de tension. Vous le sentez? Le climat de tension qui commence à monter. Le conflit, parce que la dispute ne demande qu'à s'enflammer dans notre rapport à l'autre. Vous l'avez connu ça? Tout allait bien, et puis tout d'un coup, pour une petite bricole, le ton monte, on commence à ne pas être d'accord avec l'autre, on commence à dire « non mais toi tu connais rien, c'est moi qui connais ». Et puis ça s'enflamme, tout doucement, le feu commence à prendre. Et là, au lieu d'arrêter, eh ben non, on met du bois. On met du bois et ça s'alimente, ça s'alimente. Qu'est-ce que dit la Bible? Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. C'est pas la peine d'alimenter. Qu'est-ce ? C'est secondaire. Pourquoi tu t'en vas dans quelque chose là où il va y avoir... Tu le sens pas là, la dispute qui arrive ? Tu sens pas que le climat est en train de monter là ? Lâche ! Pourquoi tu lâches pas ? Lâche. C'est pas grave. On n'est pas d'accord. Mais c'est pas grave. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Ces façons de réagir proviennent habituellement de mécanismes de survie, de protection, qui vous ont sans doute aidé à un moment donné de votre vie pour affronter des situations difficiles. Mais ces mécanismes ont fini par s'ancrer en vous. Des choses que vous avez utilisées quand vous étiez petit, parce qu'il a fallu se protéger. Mais ces choses-là sont devenues des habitudes. Et aujourd'hui, vous fonctionnez toujours comme ça, par habitude, mauvaise habitude. Et le lâcher prise, c'est s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir aux relations. Ce n'est pas s'enfermer chez soi, ce n'est pas s'enfermer ou se mettre en mode hérisson dès qu'il y a, il y a un problème, ou en mode rhinocéros, merci Alain. Hein? Non! C'est donner l'importance à la relation. Okay. Mais à présent, pour la nouvelle créature que tu es devenue, ils ne te sont plus utiles, ces modes de fonctionnement. Et même, elles sont devenues nuisibles pour ta croissance spirituelle. Ta vieille nature, elle s'était identifiée à ces mauvaises habitudes, à ces défauts. Aujourd'hui, le temps du renouvellement est arrivé. Aujourd'hui, le temps est arrivé de te revêtir de ce nouvel habit que te donne Christ, ta nouvelle identité en lui. Amen. Quand tu comprends qui tu es en Christ, les choses changent. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Dans tes mauvaises habitudes, il y a tellement de choses que tu fais parce que on en avait parlé quand on a revu notre histoire, les carences qu'on a subies, carences affectives qu'on a subies, ont provoqué des comportements en nous. Ça peut être attirer l'attention sur toi, ça peut être toujours te mettre en avant, ça peut être d'autres choses qui montrent que tu comptes tellement sur les êtres humains, tu as tellement besoin des êtres humains que ton comportement en déteint. Mais quand tu comprends qui tu es en Christ, quand Christ tu es accepté, quand Christ tu es aimé, quand Christ tu as de la valeur, et ce fondement-là, rien ne changera ce fondement-là. Tu cherches ça auprès d'un être humain. Je suis désolé de te dire qu'un être humain, c'est instable. Et ce qu'il pense de toi aujourd'hui, et quelquefois, ce n'est même pas aujourd'hui. C'est ce qu'il pense de toi à l'instant T et qui t'a mis sur un piédestal. Dans 5 minutes, il pourra changer d'avis. Tu comprends ? C'est instable, c'est comme des sables mouvants. Tu ne peux pas bâtir ta vie là-dessus. Tu ne peux pas aller chercher la solution à tes carences dans un être humain. L'être humain te donnera ce qu'il peut te donner. Et ça sera instable, c'est comme ça. Mais en Christ, c'est un roc. En Christ, c'est un fondement. En Christ, ta valeur, elle n'a jamais changé. Elle n'a jamais changé. Peut-être que dans ta famille, tu ne l'as pas vue, cette valeur-là. Peut-être que tes parents ne t'ont pas fait ressentir qu'ils t'aimaient. Peut-être que les épreuves de la vie ont fait que ça a été dur pour toi de sentir que tu avais de la valeur par rapport à ce que tu as subi. Oui, c'est possible. Mais sache une chose, ta vraie valeur, elle est en Christ. C'est lui qui détermine à la croix, il a donné sa vie pour toi. Et c'est là-dessus que tu peux t'appuyer, qu'en Christ, tu as de la valeur à ses yeux. En Christ, tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel. Un amour qui ne dépend pas de tes compétences. Un amour qui ne dépend pas de ce que tu as fait ou pas fait dans la vie. Tu peux être chômeur, tu peux être directeur de banque, tu peux être ce que tu veux. Pour Christ, tu es aimé. Quel soulagement. En Christ, tu as un attachement avec lui. Tu n'es plus seul dans la vie. Et tu ne seras jamais seul dans la vie. Christ habite en toi. C'est là que tu peux fonder ta vie. C'est sur ce roc, sur cette base-là que tu peux fonder ta vie. Et les êtres humains, tu les prendras comme ils sont. Parce que tu n'attendras plus d'eux un fondement. J'ai absolument besoin d'être aimé par les êtres humains. C'est fini! Tu les prends comme ils sont. Il y a de l'amour, et quand il n'y a pas l'amour qui est là au rendez-vous, parce que pour X raisons, mais tu as Christ qui est toujours là. Le fondement. Amen! À la sixième étape, tu comprends que ces comportements inadéquats, dysfonctionnels, doivent être éradiqués. Afin que ta vie devienne meilleure et que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois, une personne épanouie, heureuse et qui porte du fruit pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Appelé à porter du fruit. C'est ce qu'on voit dans Philippiens. Soigner ses relations. Je vous le dis et je le redirai tout le temps. La façon de vivre sur cette terre, c'est la façon dont vous allez considérer vos relations. Ça paraît simple comme ça. Les relations, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer. Mais c'est la manière dont vous allez gérer vos relations qui va déterminer si vous êtes heureux ou pas. Amen. Et dans Philippiens, regardez, dans Parole vivante, regardez ce que Paul écrit à l'église de Philippe. C'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel, votre amour entre les uns et les autres, cet amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en puissance, pénétration, c'est en puissance et en tact. En tact. Avoir du tact pour ne pas blesser les autres. Avoir du tact pour parler à chacun d'entre nous. Il faut le Saint-Esprit pour ça. On est tous différents. Et pour ne pas blesser les uns et les autres avec les susceptibilités des uns et des autres, il faut du tact. Et oui, il nous faut du tact. Hein? En plus de ça, vous avez la chance de connaître Dieu. Vous avez la chance d'être restauré. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais vous avez affaire à des gens. Et là, je ne suis pas péjoratif. Je prends juste la Bible. Vous avez affaire à des gens qui sont malades dans leur cœur. Tous sont malades. Isaïe 1, 6. Tous sont malades. Mais de la tête aux pieds, ils sont malades. Ils n'ont pas reçu la guérison de Christ. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et donc, c'est notre environnement. Et on a besoin, pour soigner nos relations, d'utiliser le tact. Afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Waouh ! Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est de la relation, ça. Moi, je suis heureux. Christ est en moi. Il me restaure. Et je soigne mes relations en trouvant ce qu'il y a de mieux pour mon prochain. Ce qu'il y a de mieux pour l'autre. Je fais attention de ne pas le blesser. Je fais attention quand je lui parle. Vous êtes encore avec moi ? C'est bien, c'est bon signe. Hein? Non, c'est extraordinaire. Et le Saint-Esprit nous permet de faire ça. Amen. Trouvez. Vous saurez alors discerner. Voilà, et concentrez-vous. Vous saurez alors discerner les vraies valeurs. C'est ça, les vraies valeurs. L'essentiel de la vie. Et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. L'essentiel de l'accessoire. Et trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir, la bonne manière de parler, le bon comportement qui ne blesse pas, qui permet de s'occuper des autres, qui permet d'apporter un plus dans les autres. Est-ce que vous êtes un plus pour votre prochain ? Il n'y a pas trop de réponses. Un tel, alors là, et restez concentrés parce que c'est tellement beau que moi, ce texte-là, il me fait pleurer. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. C'est ce que Christ attend. Christ attend qu'on lui ressemble. Est-ce que Christ vient nous blesser? Est-ce que Christ fait attention quand il nous parle? Est-ce que Christ prend soin de nous? Oui! Et c'est ce qu'il attend de nous. Vous rendra pur, irréprochable, et là, la totale. Ainsi, vous parviendrez au jour de Christ. Vous voyez? Les relations. Prendre soin des relations. Regardez les conséquences. Ça va vous protéger. De prendre soin de l'autre dans les relations va vous protéger. Pourquoi? Parce qu'en faisant comme ça, vous savez ce que vous protégez? Votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Quand je m'occupe du bien-être de l'autre, que les relations sont harmonieuses, je protège mon cœur. Amen! Et là, je me protège sans tomber, et attention, ni causer la chute d'autrui. Ni causer la chute d'autrui. Combien de fois les gens ont été blessés dans l'église et ont quitté l'église? Parce qu'il y a eu des maladresses, parce qu'il y a eu des paroles qui n'auraient jamais dû être dites. Amen. Vous paraîtrez, et ça c'est, on est prêt à arriver à Christ, là, regardez. Vous paraîtrez chargé des fruits que fait mûrir en nous la vie nouvelle produite par Jésus-Christ. De cette manière, vous ferez honneur à Dieu qui sera loué à cause de vous. Oh, je sais pas, mais franchement, c'est sérieux là. Oh, c'est beau. Je sais pas, moi, c'est extraordinaire ce que Paul dit à Philippe, mais je sais pas si vous le réalisez. Mais on va arriver là-haut, chargé comme une mule de fruits qu'on fait mûrir la nouvelle naissance. Wow! Et Dieu sera loué. Amen. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on aura pris soin de nos relations. Ça va? Comprenez? Les relations, comment c'est important? C'est fondamental. C'est pourquoi nous adoptons de nouveaux comportements. Évidemment, la vieille nature ne peut pas prendre soin des relations. La vieille nature était blessée. La vieille nature ne pensait qu'à elle. On peut pas prendre soin des autres. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut être guéri. Il nous faut être cette nouvelle créature. C'est pourquoi nous adoptons de nouveaux comportements par l'autorité que Dieu nous a donnée en vue de transformer nos relations avec les autres. Et pour cela, nous apprenons à penser différemment afin de réagir différemment. C'est ce que Paul dira. Dans Romains 12, 2, Paul dira « Je vous en supplie, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de discerner ce qui est bon. » Besoin de transformation, besoin de changer pour être dans des relations harmonieuses. Et je suis humain comme vous. Je sais que ce n'est pas facile. Mais en adoptant des nouveaux comportements, c'est possible. Avec la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, c'est possible. Amen. C'est alors que nos vies sont réellement transformées parce que nous changeons de gloire en gloire en étant perpétuellement en communion intime avec notre Seigneur. Ce n'est possible que si nous sommes en communion intime avec notre Seigneur. Vous comprenez ? C'est parce que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur habite en nous, que le Saint-Esprit agit en nous, que nous pouvons transformer nos relations les uns avec les autres. Parce que c'est le but du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Les fruits, on va le voir tout à l'heure, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est la maîtrise de soi, c'est la douceur, c'est la tendresse. Mais oui, c'est beau, mais on l'a! On l'a! On a reçu le Saint-Esprit! Ça veut dire qu'on a les fruits du Saint-Esprit qui sont en nous et c'est à nous de les amener à maturité. Et ça change les relations. Ça change nos relations. L'exemple qu'on a vécu la semaine dernière, l'exemple de l'abandon de la honte, est révélateur de notre changement. La honte inconsciente nous rappelle sans cesse notre indignité, alors que Dieu nous a rendu notre dignité. On a vu la semaine dernière qu'on n'a plus à avoir honte parce que Jésus a porté notre honte, il a porté notre culpabilité. Et pourtant, on a vu la semaine dernière combien vivent encore dans la honte. Dans la honte de ce qu'ils ont fait, dans la honte de ce qu'on leur a fait. Ça fait partie de l'ancienne créature. C'est fini. Ça n'a plus à avoir lieu, ça n'a plus à avoir d'incidence dans cette nouvelle vie. Et pourtant, beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils soient devenus une nouvelle créature, vivent encore avec cette honte. On a besoin de se débarrasser de cette vieille nature. Cependant, cela ne peut devenir une réalité dans notre vie sans l'aide de Dieu. Voilà pourquoi à cette étape, nous devons nous préparer à laisser Dieu nous transformer. Tout ce que je vous dis n'est possible que si nous laissons Dieu nous transformer. Et comment il nous transforme ? En obéissant à sa parole, en faisant les choses par la foi. Quand le Saint-Esprit vous parle, quand vous lisez sa parole, quand vous méditez sa parole, quand vous venez écouter sa parole, le Seigneur vous parle. Et il ne faut pas que votre vieille nature, il ne faut pas que votre rébellion, il ne faut pas que votre blessure, vos blessures, il ne faut pas que tout ça prenne le dessus pour empêcher de faire la volonté de Dieu. Être guéri, ça fait partie de cette croissance et de cette foi où on dit « Seigneur, ok, j'obéis à ta parole. » Et on est transformé. Oui, on prend un risque, c'est de dire « Ok, oh, c'est dur Seigneur, j'obéis à ta parole, mais c'est dur. » Oui, mais fais-le, parce que derrière, tu ne sais pas tous les fruits qu'il y a pour toi. Des changements inévitables, merveilleux, vont se produire dans ta vie et ça sera le résultat d'une coopération unique entre Dieu et toi. Il y a une coopération. Vous savez, Dieu, je l'ai écrit, Dieu vient prendre une place dans notre cœur que seul lui peut la prendre. Un être humain ne peut pas venir à cet endroit-là de notre cœur. C'est un endroit qu'on ne peut pas expliquer à un être humain. Il n'y a pas les mots pour expliquer à un être humain. On garde ça pour nous, c'est un endroit où c'est toute notre vie qui est là. C'est toutes nos souffrances qui sont là. C'est tout ce qu'on a vécu qui est là. Et puis, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. C'est un endroit, comme je pourrais dire, un endroit secret. Mais Dieu vient habiter à cet endroit-là. Et il vient guérir cet endroit-là. Amen. Dieu a une place privilégiée. Il n'y a que Dieu qui peut venir à cet endroit-là. Aucun être humain ne pourra venir à cet endroit-là. Mais quand on laisse Dieu s'approcher, parce qu'on le connaît petit à petit. Au début, il vient, on l'accepte, mais plus on est en communion avec lui, plus il s'approche de cet endroit-là, plus on le laisse s'approcher de cet endroit-là. Il y a ce refuge, il y a cet endroit où on vient là et où c'est inexplicable. On est heureux avec lui, on est bien avec lui, il nous comprend, il nous connaît, il est à l'endroit-là où avant nous étions seuls à cet endroit-là, mais maintenant nous sommes avec lui. Quelle extraordinaire expérience. C'est ça l'expérience de vivre avec Dieu. C'est une expérience qu'on ne peut même pas expliquer. C'est l'endroit où Dieu vient dans ton cœur et il vient guérir ton cœur. Nous lui donnons un accès sans limite à notre cœur. Il est le seul à venir faire sa demeure dans une proximité avec notre cœur que jusque-là, aucune personne n'avait pu accéder. Waouh, extraordinaire. Tu n'es plus jamais seul. Tu n'es plus jamais seul. C'est un endroit où tu partages ta vie, une communion avec le Seigneur. Dans Jean 17, 22, il est écrit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Moi et eux, on fait qu'un. Le Seigneur et nous, dans notre cœur, on fait un. Quelle communion! Par sa puissance et dans un processus qui dépasse notre entendement et qui fait appel seulement à la foi et à son amour pour toi, il va te transformer, il va te libérer, il va te rétablir dans ton identité en Christ. Pour cela, une seule condition, laisse-le agir. Laisse-le agir en toute liberté. Fais-lui confiance en obéissant tout simplement à sa parole, sans se poser de questions. La Bible dit, venez à moi comme des petits enfants qui font confiance à leurs parents. Tu fais confiance à Dieu. Dieu a dit, je fais. Je ne me pose pas 10 000 questions. Dieu a dit, je fais. Amen. Et j'observe le résultat. Le miracle est là. Jésus dit, Seigneur, j'obéis à ta parole. Amen. Dans tous les domaines de la relation, vous prenez Matthieu 5 et regardez un petit peu Matthieu 5. C'est que des ordonnances de Dieu, c'est que des révélations de Dieu sur la manière de nous comporter dans nos relations les uns avec les autres. Ça devient du concret parce que c'est notre vie de tous les jours. Et pour nous, qui n'avons pas l'habitude de fonctionner comme ça dans notre vieille nature, il peut y avoir des réticences. On se dit, oh, Seigneur, ce que tu demandes là, ouf, costaud, hein, ouf, ouf, ouf. Laisse-toi faire, laisse. Juste, vas-y, fais les premiers pas. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider pour la suite. Et tu vas faire les choses petit à petit. Et ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. C'est une nouvelle vie qui commence dans les relations, et c'est dans les relations que nous sommes guéris. On a été blessé, on sera encore blessé, ou en tout cas on apprendra à se protéger, mais c'est dans les relations qu'on va se guérir. C'est pas en étant enfermé chez toi, c'est pas en étant plein d'amertume chez toi, par tout ce que tu as vécu, que tu vas guérir. C'est en t'ouvrant à nouveau aux autres, mais en ayant moins d'attente. En ayant moins d'attente. Parce que quand tu es en communion comme ça avec Dieu, réalise une chose, ce que Dieu te donne à ce moment-là, aucun être humain ne peut le faire. L'amour qu'il te donne, en étant dans la proximité de ton cœur, et en te donnant ce qui t'a manqué dans ta vie, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Aucun être humain ne peut le faire. Et évidemment que quand tu reçois tout de Dieu, quand tu es dans une communion parfaite avec Dieu, alors, évidemment, tu es moins en exigence avec les êtres humains. Tu les prends comme ils sont. Quand ils font des erreurs, ce n'est pas grave. Parce que tu as Dieu. Et que tu viens, tu dis, Seigneur, ouf, t'es costaud aujourd'hui. Hein? Ouf, c'est pas facile, Seigneur, aujourd'hui. Mais le Seigneur nous console. Le Seigneur nous guérit. Hein? Et on ne s'est pas fâché avec la personne. Même si ce n'était pas facile, parce que franchement, ce qu'elle a dit sur moi, ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste, Seigneur. Ce n'était pas normal. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et on ne va pas se fâcher avec tous nos proches, sinon on va finir tout seul. Ce n'est pas le but du jeu. Donc, il y a un travail qui se fait dans notre manière de concevoir les relations à partir du moment où on devient cette nouvelle créature. On change. On est transformé. Le défi du changement. Nous avons pleinement consenti. Dieu ne nous transforme pas à notre insu ou contre notre gré, mais avec notre accord. C'est la vraie question de ce soir. Dieu, ce soir, il veut que tu répondes à cette question-là. Est-ce que tu es prêt à me laisser agir en toi? Oui! Amen! Agis, Seigneur! Transforme-moi, change-moi. Je veux goûter à cette liberté que tu m'as promis. La liberté dans nos rapports les uns avec les autres. La liberté d'aimer l'autre. D'aimer nos prochains, d'aimer nos proches, même si quelquefois ils ne sont pas aimables. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai décidé d'aimer. C'est pas pareil. Il y a un mot comme ça qui vient, hein, qui est proactif et réactif. La différence. Proactif, c'est moi qui décide d'aimer. Et personne ne décide à ma place. Et réactif, c'est je vais aimer en fonction de ce que les autres me font. T'es gentil avec moi ? Mais je t'aime. Pas gentil avec moi ? Mais je t'aime plus. Ça, c'était à la cour de récréation. Ça, vous vous rappelez ? Ça se passait à la cour de récréation. Maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, avec l'amour de Dieu qui coule en nous, c'est cet amour que nous répandons autour de nous. Et on décide d'aimer. Et vous savez quoi ? Réalisez deux secondes. Quand vous décidez d'aimer, la personne en face n'a plus aucun pouvoir. Réalisez. Ça peut prendre un petit peu de temps, il faut que ça monte au cerveau. Je vous laisse deux secondes. J'ai décidé d'aimer. Alors évidemment, comprenez bien, c'est l'amour agapé. D'accord ? C'est pas l'amour philéa. D'accord ? L'amour philéa, c'est un amour par affinité. Mais on n'aime pas tout le monde. Ben, sinon, on ne serait plus des humains. D'accord ? On a des affinités les uns avec les autres. Je ne parle pas de cet amour-là. On est d'accord ? Je parle de l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour agapé. L'amour agapé est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. OK ? Et donc, cet amour qui coule en moi, mais c'est ma force. C'est mon bouclier. C'est mes armes spirituelles. Vous comprenez ça ? J'ai décidé d'aimer. Donc, je décide d'aimer mon frère Alain. Je l'aime, mon frère Alain. Mais là, il est méchant avec moi. Mais est-ce que c'est lui qui décide pour moi si je continue à l'aimer ou pas ? Eh bien, non. Non. Je vais dire à Alain, tu m'aimes plus ? Ben, moi, je continue à t'aimer. Alléluia ! Et ça ne me blesse pas, ça ne me touche pas. Je suis même désolé pour lui de ne pas aimer une telle personne que moi. Ah, c'était pour vous détendre un peu, ça va mieux là, je sens que vous êtes détendu. Regardons l'importance du consentement pour Jésus. Regardez l'exemple de Bethesda. J'avais pris tout à l'heure Bartimée, mais regardez à Bethesda. Cela fait 38 ans que l'homme, il est couché là. Vous vous rappelez de Bethesda, la piscine de Bethesda, ok ? Et il n'arrive pas à aller dans la piscine le premier, parce qu'il y avait un ange, il y avait une superstition, il y avait un ange qui arrivait, puis le premier était guéri. Et là, qu'est-ce que Jésus lui pose comme question ? Après 38 ans, Jésus pose la question, « Veux-tu être guéri ?» Non. C'est la question que Jésus te pose ce soir. « Veux-tu être guéri ?» Ah, c'est bien. Veux-tu réellement être guéri et entrer dans ce processus de transformation? Les gens ne changent pas. Pourquoi ils ne changent pas, les gens? Parce qu'ils ne veulent pas changer, en réalité. Ils le disent du bout des lèvres. Ils veulent plus de Jésus en eux. Plus de toi. Je ne vais pas chanter. Ma femme m'a dit, tu prêches mieux que tu chantes. Je vais juste rire. Je vais juste continuer de prêcher. Mais les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Les gens ne disent jamais ouvertement qu'ils ne veulent pas changer. Mais ils résistent à l'idée de changer, à l'idée de prendre des initiatives, de changer d'habitude, de conception qui les mènerait vers une réelle transformation. Il y a de la rébellion dans nos cœurs. On résiste à la parole de Dieu. On ne le dit pas. On est des bons chrétiens quand même, oh, faut pas déconner. Donc, on est des bons chrétiens. Mais au fond de notre cœur, on résiste. On entend la parole et on dit, oh, c'est fini. Et dommage qu'il n'est pas là, parce que ça lui aurait fait du bien. Non, c'est pour toi. C'est pour toi. Entre le connu et l'inconnu, les gens choisissent de préférence le connu. Parce que l'inconnu fait peur. Mais nos habitudes nous rassurent. Notre façon d'être nous rassure. On se connaît. On a l'habitude de faire comme ça. Donc c'est facile. Pourquoi changer, prendre des risques et aller où je ne sais pas trop où? Continuons le confort désespérant. Alléluia. Non, ce n'est pas alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne changent pas et restent dans un confort désespérant où il y a une autre formule qui est pas mal, un désespoir confortable. On n'est pas heureux, on n'est pas bien, mais on est dans un confort parce qu'on connaît. Donc on peut passer notre vie comme ça. Vous voulez un exemple commun à 90% des couples. Vous voyez, on voudrait un couple amoureux. Là, ça, j'ai eu peur. Ouais, vous m'avez fait peur. Bon, je répète. On voudrait être dans un couple amoureux. Ok. Mais seulement pour ça, il faut changer. Il faut s'adapter à l'autre. D'accord ? Mais s'adapter à l'autre, c'est du boulot. C'est du travail. Donc, la plupart des couples, ils le disent, ils l'ont dit devant le maire. D'accord ? Mais après, à la maison, ça change tout. Parce que c'est trop dur. Donc, on reste comme on est. C'est pas plus mal. Confort désespérant. Et puis le couple, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y a pas de changement. On n'est pas content. On n'est pas content. Ah non, on n'est pas content. Mais on ne change pas. Parce que changer, ben, c'était du boulot. Donc, on a préféré rester dans un confort désespérant. Le confort, parce qu'on se connaît, on a ses petites habitudes. Toi, tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de ça. Tac, 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 tout va bien. Mais notre couple n'est pas terrible quand même. Ah, c'est pas grave. On s'en sort. Oui, d'accord, on s'en sort. Mais non, ma chérie, on travaille, nous, quand même, à notre couple. Nous avons abordé à la troisième étape la question de la résistance. Celle-ci est toujours susceptible de réapparaître à tout moment et prend sa source dans ce conflit intérieur entre ce que nous désirons ardemment et le prix à payer pour l'obtenir. Ah, on commence à parler des choses sérieuses là, hein ? Je vous le dis, il y a un prix à payer. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Il a dit, tu veux me suivre ? Prends ta croix et suis-moi. Et franchement, une croix, pas facile. On a envie de la lâcher. Dans tout ce qu'on fera pour le Seigneur, il y aura une transformation. Parce qu'on était cette vieille nature, on devient cette nouvelle créature, mais il ne faut pas rêver. Ce soir, je vous apprends une vérité. Ça ne va pas venir comme ça. On va le voir tout à l'heure, une définition de la folie. Vous allez voir, vous allez comprendre. Non, non, il faut travailler. Travailler à notre croissance. Si on est marié, travailler à notre mariage. Jean-Roger, tu es d'accord avec moi ? On travaille à notre mariage ? Il vaut mieux. Ah oui, Jeannette, tu es d'accord avec moi ? N'aie pas peur, Jeannette, tu peux t'exprimer. Il faut travailler, Jeannette. Et ouais, on travaille à notre mariage. On travaille à notre croissance. On travaille pour changer. Vous voyez ? On va le voir tout à l'heure. La folie, c'est quoi la folie ? Le début de la folie, c'est quoi, Irlande ? Non, c'est de croire qu'on va obtenir des résultats différents sans changer. Donc, je ne change pas parce que c'est compliqué, mais peut-être que je vais obtenir des résultats différents, qui sait ? On ne sait jamais. Ça, c'est le début de la folie. Les gens ne changent pas parce qu'ils ont peur du changement. Il y a une certaine sécurité dans nos vieilles habitudes. Par conséquent, tant que la douleur de la condition présente ne deviendra pas plus grande que celle générée par la perspective du changement, la plupart des gens choisissent de demeurer dans l'état dans lequel ils sont. Je vais vous donner une petite illustration pour comprendre ça. Vous avez peur du dentiste. Il y en a qui ont peur du dentiste. Vous savez, la roulette, là. Bon. Eh bien, tant que la douleur est supportable, eh bien, ils n'iront pas chez le dentiste. Ils diront, ça va, Ça va, ça peut le faire encore. Ils iront chez le dentiste le jour où la douleur sera plus forte que la peur du dentiste. Là, ils diront, ah, c'est bon, j'abandonne, je lâche. Lâche prise, va chez le dentiste. Là, c'est lâche prise, va voir Dieu. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne font rien pour changer. Ils espèrent, ils rêvent, ils en parlent, mais ils n'engagent aucune action concrète pour mettre en œuvre ce qu'ils voudraient voir changer. Amen. Et voilà le début de la folie. Reproduire sans cesse les mêmes façons de faire, de penser, en espérant que le résultat va être différent. C'est le début de la folie. Oui. Tu rencontres un exemple. Hein. Tu rencontres quelqu'un qui est alcoolique. D'accord ? Et il te dit, oh, je voudrais arrêter. Tu comprends, moi, je ne peux pas continuer comme ça, je voudrais arrêter. Donc, tu vas lui dire, bah, tu sais, il faut que tu changes tes habitudes. Hein. C'est-à-dire que le soir, quand tu rentres, bah, tu vois cette rue-là, là, bah, il faudrait que tu changes de rue. Ouais, tu prennes une autre rue. Parce que dans cette rue-là, il y a tous tes copains. Et puis, il y a le bistrot. Tu vois ? Donc, si tous les soirs, tu reprends toujours le même rue, tu vas toujours voir tes mêmes copains, il n'y a pas beaucoup de chances que ça change. Tu veux changer, mais tu as des mauvaises fréquentations. Mais tu continues à fréquenter des copains qui t'entraînent vers le fond. Il n'y a rien qui changera. Il faut que tu changes de fréquentation. Il faut faire quelque chose. Il faut changer des choses. Tu vois ? Tu es en retard. Ça arrive, ça, des gens qui sont en retard. Tu es en retard. Mais si le matin tu te lèves et tu fais les mêmes choses tous les jours, tac, 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 mais au final, tu seras en retard. Oui, c'est héréditaire, mais avec Dieu, tout est possible de changer. Non, on ne peut pas marcher là-dessus. On ne peut pas dire c'est la faute de mes parents. Non. Avec Dieu, tout est possible. Hein? Là, tu vois, tu sais que tu es en retard, tu réfléchis, tu dis Seigneur, il y a des choses que je dois changer. Donc, dans mon mode de fonctionnement, il y a des priorités. Il va falloir mettre des priorités. C'est-à-dire que là, j'ai l'habitude de faire ça. OK ? Et bien là, tu vois ça là ? Tu arrêtes. Je sais pas, tu le sens là ? Ah ! Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que je passe le balai absolument. Ça ne va pas être propre. Ça ne va pas être bien. Oh, je me sens mal. Je ne peux pas. Lâche le balai. Non, je ne peux pas. Tu me demandes quelque chose qui est trop. Lâche le balai. La priorité, est-ce que c'est le balai ou c'est être à l'heure ? C'est être à l'heure. Mais je peux faire les deux. Mais non, ça fait 20 ans que tu fais les deux et ça ne marche pas. Donc change. Lâche quelque chose. Lâche le balai. Hop, on va se laver. On va se laver, mais oh, le balai. Mon balai. Pas bien. Faut lâcher. La priorité, c'est quoi ? Faut mettre des priorités. Et c'est la priorité qui compte. Et tu peux mettre ça dans plein de choses. C'est quoi le choix ? Tu lâches. Faut lâcher. Il y a de la résistance. Parce qu'on a des habitudes. Parce qu'on dit non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas. Oh, t'avances. Tu dis, oh, ça, c'est pas à sa place. Oh, j'y vais. Non ! Tu iras plus tard, on verra ça. Ah, oh, je peux pas y aller. Non ! Tu vas te laver. Ah ! Il y a du travail à faire. Il faut lâcher. Dans cette parabole de Jésus, il n'y a aucune hésitation entre l'injonction de Jésus et la réponse du paralytique. Une fois que nous abandonnons entièrement notre vie et notre volonté à Dieu, nous lui permettons de faire entièrement son œuvre en nous. D'accord ? Dieu t'observe, il te regarde. Il dit, qu'est-ce que tu choisis ? Le balai ou moi ? Tu lâches le balai ou pas ? Si tu ne lâches pas le balai, Dieu te laisse avec ton balai ? Eh oui, il ne va pas te forcer. C'est-à-dire, moi, je suis là pour t'aider. Mais si tu lâches pas le balai, je peux pas t'aider. Et toi, tu veux qu'il t'aide et tu gardes le balai. Coup de balai. Il faut lâcher. C'est le moment de nous préparer à une intervention spirituelle majeure de la part de Dieu dans notre être intérieur. Ça a un prix à payer. Qu'est-ce que tu dois lâcher? Qu'est-ce que tu dois lâcher pour que Dieu intervienne dans ta vie, réellement? Dans tout ton inventaire, dans tout ce que tu as fait, maintenant c'est sur le papier, mais maintenant il va falloir que tu passes à l'action. C'est une histoire de vérité. Donc, on a consenti à ce que la prochaine fois, Dieu élimine. Parce que là, on est juste en préparation. On imagine un petit peu toutes les difficultés qu'il va y avoir à faire. Hein ? Il va falloir lâcher le balai. On est en train de se préparer psychologiquement. Qu'est-ce qu'on doit lâcher ? Pour que Dieu intervienne complètement dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire ? Les limites que je dois mettre dans certaines situations, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Il y a des choses, on le sait. Dieu nous a déjà dit. Dieu nous a déjà parlé. Mais nous sommes en résistance, mes chers amis. Nous avons décidé de résister. Mais on ne le dit pas comme ça. Hein, on trouve des subterfuges. On arrive à trouver des choses pour ne pas le faire. Notre participation à l'élimination de nos défauts réside dans une nouvelle attitude envers Dieu et une meilleure compréhension de sa manière de travailler en nous et avec nous afin de changer nos vies. Pour que nos vies changent, il faut que nous changions d'habitude. Pour que nous changions réellement, il faut que Dieu nous change. Pour que Dieu puisse nous changer, il faut que nous lui en donnions la possibilité. D'accord ? Donc, on va aller vers l'étape 7, vers l'étape 8, mais elle ne sera possible que si, là, à la 6, on lui dit, « Ok, Seigneur, j'arrête, j'abandonne, je lâche prise, fais ce que tu veux de ma vie. » Est-ce qu'on ne lui a pas donné notre vie ? Véritablement ? C'est le moment de vérité. Est-ce que tu as donné ta vie à Christ ? Est-ce que tu lui permets de faire ce qu'il a prévu de faire en toi ? Le piège, lorsque nous prenons conscience de nos défaillances et de nos difficultés, et d'essayer de tout résoudre par nous-mêmes, c'est encore autre chose. Attends, Seigneur, t'inquiète, je vais le faire. Je vais y arriver. Je garde le balai et je vais y arriver. Tu comprends ? On croit que par nous-mêmes, on peut le faire. Mais non, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas le faire. Ça ne marche pas. Tu peux essayer, mais ça ne marchera pas. Dans Jean 15, il dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'enjeu de cette sixième étape, de consentir, de mettre à l'épreuve notre capacité à nous abandonner. Il est question encore ici de foi, de confiance et de persévérance. Il faut persévérer, prendre une décision et dire, « Seigneur, je prends ma décision, vas-y, on est ensemble, et je persévère, et je persévère, et je persévère. » Amen. Puisque l'on ne peut pas nous abandonner que si nous faisons confiance. L'abandon ne fonctionne que si vraiment nous pensons que Dieu est à l'œuvre dans notre vie et qu'il va nous amener vers des choses meilleures. Notre volonté ne suffit pas à résoudre nos problèmes. Paul a bien spiritualisé ce constat en s'adressant aux chrétiens de Rome. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, je suis obligé de reconnaître qu'il y a une puissance qui agit en moi. Et cette puissance s'appelle le péché. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible. Mais le faire par moi-même, c'est impossible. Ok ? Paul avait bien compris que malgré ses efforts, il ne pouvait pas, par lui-même, se débarrasser de ses mauvaises habitudes et de ses défauts. Et donc, il en a conclu que seul Dieu avait le pouvoir de le délivrer et de le transformer. Il en est de même pour chaque être humain. Pour chaque être humain, c'est pareil. Nous resterons impuissants et malheureux tant que nous ne laisserons pas Dieu nous transformer. Obéissance et autorité sont les deux mots-clés pour changer. Obéir à sa volonté, à travers sa parole, et prendre autorité, et ça c'est important aussi, prendre autorité pour refuser de retomber dans nos anciens schémas. nos anciennes réactions et surtout prendre autorité sur nos émotions. Nos émotions, ce sont des bons serviteurs, mais c'est des mauvais maîtres. Les émotions ne doivent pas conduire notre vie. Les émotions, s'ils conduisent notre vie, on est foutu. Parce que c'est trop puissant. Les émotions, ça nous entraîne à faire des choses à travers la peur, à travers la honte, à travers la culpabilité. Ça conduit nos vies, les émotions. Si on n'arrive pas à travers ce fruit de l'esprit, la puissance de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi, si on n'arrive pas à gérer nos émotions, alors c'est les émotions qui vont nous gérer. Non, on prend des décisions et on dit non. Parce qu'à travers nos émotions, c'est toute notre histoire qui ressurgit dans nos émotions. Mais tout ça, ça appartient au passé. Ce n'est plus ce que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une puissance en nous qui est plus forte que cette puissance qui a animé nos émotions. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on a cette autorité. On dit, au nom de Jésus, tu ne me commanderas pas. Au nom de Jésus, cette émotion qui arrive, je la connais bien. C'est fini, tu arrêtes de dominer sur moi. Au nom de Jésus, c'est plus toi qui dirige ma vie, c'est Christ qui dirige ma vie. Et on prend autorité parce que l'ennemi essaye encore de nous imposer cette vieille nature. Il essaye encore par tous les moyens de nous rappeler à nos anciennes émotions, à nos vieilles émotions. Mais c'est fini! C'est fini, il y a une séparation entre les anciens, la vieille nature, la nouvelle nature, on ne peut pas mélanger, il y avait la vie avant, il y a la vie après, c'est fini, et c'est à nous de prendre autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est la parole de Dieu qui le dit. On a autorité pour marcher sur toutes les puissances du mal. C'est dans cette obéissance et cette autorité à ne plus accepter que mes vieilles habitudes, mes vieux réflexes, mon pilote automatique. Vous connaissez celui-là ? Fameux pilote automatique ? Dans notre vie, là, quand on devient une nouvelle créature, il faut le débrancher. On débranche le pilote automatique. Combien de fois nous faisons les choses sans réfléchir ? Nous parlons sans réfléchir. Nous répondons sans réfléchir. Nous faisons les mêmes choses qu'avant. Les vieilles habitudes sont toujours là parce qu'on a un pilote automatique. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que le pilote y fonctionne. Et on n'en prend même pas conscience des fois. On répond comme on répondait avant. On parle mal comme on répondait avant. On a gardé des vieilles habitudes. Débranche ton pilote automatique. Débranche, réfléchis. Tu parles plus comme ça, tu réfléchis plus comme ça, tu agis plus comme ça. C'est fini, tu es une nouvelle créature, tu appartiens à Christ maintenant. Débranche ton pilote automatique. Tout ça là, toutes ces vieilles choses décident de mon présent et de mon avenir. Alors je relis parce que j'ai coupé la phrase. C'est dans cette obéissance et cette autorité à ne plus accepter que mes vieilles habitudes, mes vieux réflexes, mon pilote automatique décident de mon présent et de mon avenir. Que Dieu nous transformera. C'est fini. Je ne veux plus être comme avant. Je ne veux plus être ce Bertrand d'avant qui réagissait par rapport à ses blessures, qui réagissait par rapport à ses carences affectives. Tout était conduit par ce que j'avais vécu étant petit. C'est fini! Alléluia! Dieu transforme! Alléluia! Jour après jour, nous allons assister à la manifestation de la puissance de sa grâce qui est à l'œuvre dans nos vies. Ce n'est pas une chimère. Vous comprenez là ce qu'on enseigne ce soir? Ce n'est pas une chimère, c'est la vérité. Et moi, mon souhait est mon énergie que je mets ce soir, c'est vraiment en espérant que vous goûtiez à cette liberté, que vous vous laissez transformer, que vous rentrez dans cette réalité de la foi, que vous rentrez dans cette obéissance pour que vous soyez libérés. Oui, allez-y, c'est moi, je mets de l'énergie, moi. Soyez libérés, soyez pas prisonniers de toute votre vieille vie d'avant. Soyez libérés. Éliminez tous ces caractères de défaut. Que sont les caractères de défaut ? Et les défauts de caractère, pardon. L'ensemble des aspects de notre personne qui nous affectent, perturbent notre vie et inévitablement, ça a des conséquences sur les autres. Voici quelques traits de caractère considérés comme des défauts. La jalousie, bon, vous n'êtes pas trop concerné. Susceptibilité, bon, je ne pense pas que vous êtes, vous soyez concerné par la susceptibilité. Impulsivité, égoïsme, etc., etc., etc. Il peut s'agir aussi d'un manque, d'une carence, quant à une qualité que nous devrions posséder et qui ne s'est pas encore manifestée en nous. Vous voyez, dans la transformation, il y a des choses que le Saint-Esprit a en réserve pour nous. Le fruit de l'Esprit, comme je disais tout à l'heure, nous l'avons reçu. Nous l'avons. Mais il ne s'est pas toujours manifesté. Parce que nous avons encore des vieilles habitudes. Moi, je suis en transformation. Je vous donne un exemple. Ma femme est là, donc je suis obligé d'être sérieux. Par exemple, vous voyez ? Exactement. Et je prends mon exemple à moi. J'ai envie d'avoir la paix ce soir, je soigne mes relations. Voilà. Donc, dans ma famille, si vous voulez... Ah ben, il y a ma sœur qui est là aussi. Mais elle est un peu plus vieille que moi. Dans ma famille, par exemple, le mot douceur, tendresse, on aurait dit que ce n'était pas dans leur dictionnaire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est mon passé. C'est la réalité de mon passé. Mais ça a eu des conséquences. Parce que douceur, tendresse étaient exempts de ma vie. Et donc, mais n'empêche qu'on grandit. On grandit, mais avec ces carences-là. Vous voyez ? Et quand arrivé adulte, ben c'est bizarre, mais c'est toujours pas là. D'accord ? Donc, on se marie. Et puis là, carence, douceur, tendresse, c'est pas là. Allez, donc je vous laisse imaginer. Et en réalité, quand je rencontre le Seigneur, douceur, tendresse, c'est toujours pas là. Et pourtant, je reçois le fruit de l'Esprit. Mais il faut que je laisse faire le Seigneur. Il faut que je dise Seigneur, c'est pas parce que quand j'étais petit, j'ai pas eu la douceur, la tendresse, l'amour, que je vais passer toute ma vie comme ça. Seigneur, transforme-moi. Et donne-moi cet amour qui vient de toi, donne-moi cette douceur qui vient de toi, donne-moi cette tendresse qui vient de moi. Alors, je n'y suis pas complètement arrivé, je ne pense pas, mais je suis en progrès, nettement en progrès. Et je trouve que je m'améliore d'année en année. Ah ! Tout va bien. Tout va bien, je suis sauvé. Merci ma chérie. Vous voyez ça fonctionne. Je veux dire qu'on est appelé à ressembler à Christ. On est appelé à ce que ce fruit de l'Esprit, il mûrisse en nous. Moi, je veux arriver avec le Seigneur, plein de fruits, des fruits partout, j'arrive plus à les porter. Oh, Seigneur, regarde les fruits chargés de fruits. Oh, le fruit de la tendresse. Oh, le fruit de la douceur. J'en ai plein. C'est bon ? C'est magnifique. Et ça, c'est la puissance de Dieu dans votre vie. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est que ça ne s'est pas encore manifesté, mais c'est en vous. Et ça se manifestera avec votre communion avec le Seigneur à partir du moment où vous le demandez. À partir du moment où vous ouvrez la porte et, vous dire, et de dire, Seigneur, j'ai vu, on m'a dit, il n'y a pas ça chez moi. Oh, il n'y a pas ça chez moi. C'est pas grave. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Et je ne vous dis pas, dans un couple, quand les deux fonctionnent comme ça, alors là, c'est top. Et c'est top. Pourquoi ? Parce qu'on prend les choses différemment. On n'est pas là en train de se dire, toi, de toute façon, t'as pas de tendresse, t'as pas d'amour. Non, on prend conscience qu'il nous manque ça. OK, mais on dit, mais on va prier. Et le Seigneur va, mais bien sûr, par la foi, je sais que ça va arriver. Mais oui, ma chérie, ça, notre couple va se bonifier avec le temps. Il y aura la tendresse, il y aura l'amour. Mais oui, il n'y a pas de vieux rustres avec nous. On n'a que des enfants de Dieu. On n'a que des enfants qui veulent changer, qui veulent être transformés. Qui disent, chérie, ça va venir. On va prier. Dieu nous donnera. Amen. Alors, c'est bon. Amen. C'est un besoin de transformation aussi lorsque nous manquons de persévérance, de courage, de volonté, ou lorsqu'il s'agit d'établir des limites. On a aussi ce problème-là. On a aussi, certains n'ont pas reçu une grosse volonté, une grosse persévérance. Quelqu'un qui a été abusé dans son enfance va avoir un mal de chien à établir des limites. Il y a des choses comme ça. Mais ça, on demande à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis la volonté. C'est moi le faire. C'est moi le vouloir. Il nous donne la capacité. Il faut juste qu'on en prenne conscience. Quand on fait notre inventaire, on regarde, puis on dit, tu vois, Seigneur, il me manque de la volonté. Là, par exemple, j'ai décidé je suis un petit peu, comment on va dire, un petit peu trop, trouvez-moi un petit mot. Un bon point. J'ai un petit peu d'embonpoint, Seigneur. Donc, je vais faire attention. Mais là, j'ai besoin de Dieu, je prie. Pourquoi ? Parce que les petits plats, ils passent. Non, mais sans volonté, je suis foutu. Juste aujourd'hui seulement. Mais aujourd'hui, ça se reproduit tous les jours. Donc, il nous faut de la volonté. Il faut prier pour ça. J'ai besoin de volonté, de persévérance. Qui ne manque pas de persévérance ? Persévérance dans les études, persévérance dans le travail, persévérance dans le travail qu'il y a à faire. On a besoin de ça. Il y en a qui n'ont pas eu ça. Et ça, établir des limites, on a besoin de se protéger, on a besoin de dire à certaines personnes, hop, stop, ça s'arrête là. Stop. On n'est pas fâché. On l'aime, n'oubliez pas, bouclier de l'amour, j'ai décidé de l'aimer, mais stop. La limite, c'est là. Mais je t'aime, ça ne veut pas dire que tu me marches dessus, que tu fais ce que tu veux avec moi, que je suis une serpillière. Non. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux que je t'aime, il faut aussi que je me respecte. Sinon, je pourrais pas t'aimer. Donc, je suis obligé de me respecter. Top. Ça, c'est le bouclier de l'amour. Nos défauts sont aussi parfois des qualités déformées. Par exemple, la fierté peut devenir de l'orgueil. La patience peut devenir de la passivité. Ou encore, l'estime de soi peut s'enlaidir de vanité. La bonté peut devenir de l'abus, etc., etc., etc. Ça, c'est dans votre inventaire que, logiquement, vous avez dû refaire sortir tout ça pour voir qu'est-ce qui doit changer. À l'étape 3 et 4, vous avez déjà fait un inventaire minutieux de ce qui ne va pas avec vous. Et il sera fort utile de le revoir à nouveau. Parce que, qu'est-ce qu'on demande à Dieu ? Hein ? Le gars de Bethesda, là, eh ben, Dieu lui a dit, mais tu veux que je te fasse quoi ? Et donc, il avait son inventaire, le gars. Il a dit, jette-moi dans la piscine, le premier. Il a dit, non, mais que je me lève, que je ne sois plus handicapé. Et il l'a dit. Nous aussi, on arrive avec notre inventaire. Et on dit, regarde, Seigneur, tout ça, là, regarde la liste. Oh, attends, il y a encore une page derrière. Oh, tout ça, ça doit changer. Et Dieu va le faire. Voici l'histoire de quelques membres d'un groupe des 12 étapes qui embarquent sur le bateau rétablissement. Ils traversent la mer de la vie pour atteindre l'île de la sérénité. Peu après que le bateau se soit éloigné du quai, les passagers se rendent compte que Marie court le long du quai. Et ils se mettent à crier « Plonge Marie, viens, rejoins-nous, tu peux le faire !» Alors elle se met à nager de toutes ses forces. Mais lorsqu'elle s'approche du bateau, elle ralentit et elle se met à lutter pour rester à flot. Et là, qu'est-ce qu'elle voit ? Une lourde pierre est suspendue à son cou par une corde. Alors tout le monde se met à crier « Marie, lâche la pierre, lâche-la !» Marie regarde la pierre. Elle se rend compte qu'elle contient ses peurs, ses ressentiments, son apitoiement sur soi, sa colère, son intolérance, le non-pardon et puis d'autres défauts encore. Bref, tout ce qui provient de son passé et de ses blessures. Elle prend conscience que si elle ne se débarrasse pas, elle se noiera. Alors elle décide de défaire la corde, repousse la pierre loin d'elle en la laissant couler au fond de la mer. Libérée de ce poids lourd et inutile, Marie se retrouve à nager facilement le reste de la distance jusqu'au bateau. Waouh ! Amen. Il faut lâcher la pierre. Et il faut lâcher la pierre. Cette illustration nous montre qu'avec chaque pierre que nous laissons tomber, non seulement nous nous libérons pour devenir les personnes que nous sommes appelés à être, et nos attitudes d'humilité, de volonté, de courage ont également un effet d'entraînement positif et de guérison sur les autres. En conclusion de cette sixième étape, nous sommes déjà en mesure de voir nos progrès. Nous sommes maintenant à mi-chemin de ce grand voyage vers notre plein rétablissement. Ne vous découragez pas! Le fait de prendre de plus en plus conscience de vos défauts et de vos lacunes peut paraître au premier abord quelque peu décourageant. Mais ces lacunes et ces défauts seront vite remplacés par des qualités et des forces qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre vie. Quelque chose de merveilleux se profile à l'horizon pour vous. Alors, je vous encourage, sans hésitation, lâchez vos pierres. Lâchez vos pierres. Le défi, lâchez prise. Et le mot-clé, on va vers la transformation. Amen, amen, amen. Alléluia. On lâche les pierres. On se prépare à laisser la porte ouverte à Dieu. On n'a pas peur. On lui laisse toute la latitude qu'il a besoin pour nous transformer. Revoyons notre inventaire s'il manque des choses. Complétons-le. Hein, et on va demander à Dieu, à la prochaine étape, on va demander à Dieu d'agir et de nous libérer de tout ça. Et attendons-nous au miracle. Amen. Attendons-nous au miracle.